alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Francis Pornon, bonjour.
Bonjour Claire.
Qui vient nous présenter donc son dernier roman polar qui vient de sortir, qui s'appelle Explosif et Vieille Ficelle, édité chez Mare Nostrum, une maison d'édition perpignanaise. Et puis, il nous parlera également de son avant-dernier, qui n'est pas si vieux, puisqu'il est sorti en mars 2007, il y a quelques mois. Toulouse Barbare, édité cette fois-ci chez Privat. Donc, on parlera voilà, essentiellement de ces deux livres, un peu plus donc, du dernier, hein, Explosif et Vieille Ficelle, qui parle voilà, sur thème d'AZF. Hein, c'était il n'y a pas si longtemps, le 21 septembre, on a fêté l'anniversaire.
Le sixième anniversaire, je pense.
De l'explosion d'AZF dans notre ville rose. Donc, on en reparle de tout ça et puis du personnage de Francis Pornon, qui est très. Qui a fait beaucoup de choses, hein. on va le découvrir tout à l'heure. Donc comme à l'accoutumée, quelques petites infos pour vous dire tout d'abord que ce soir à 18h au Salon Privat, qui se situe 14 rue des Arts, vous pouvez rencontrer Olivier Adam pour son dernier roman qui s'intitule « À l'abri de rien » qui est publié aux éditions de l'Olivier. Donc c'est ce soir au Salon Privat à 18h. Ensuite, ce week-end, il y a beaucoup de choses qui se passent ce week-end. Alors, samedi 6 et dimanche 7 octobre, à Valence d'Agen, il y a le Salon du Chocolat. Alors, notre ami Jacques Griffaud, libraire à Montauban, responsable du Scribe, nous en avait parlé en début septembre. Donc, d'ailleurs, lui, il sera présent. Hein, la librairie du Scribe sera présente à ce Salon du Chocolat, sera présente même exactement à l'espace noir. Alors, il y aura du café, bien sûr, bien noir, bien serré. Du vin noir de Brulois et puis bien sûr des romans noirs, hein, des polars. Donc c'est samedi 6 et dimanche 7 à Valence d'Agen et le dimanche 7, vous aurez le plaisir de rencontrer Patricia Paris que j'ai reçue la semaine dernière pour son roman Petits arrangements avec l'infâme. Donc elle sera présente le dimanche. Voilà, ensuite je continue donc Francis Pornon justement. Vous serez présent à Cultura à la Beige mardi 6 octobre.
Samedi.
Oui, pourquoi j'ai marqué mardi ? Ouh là là, mardi, samedi. Oui. 6 octobre ce à samedi, 16h. Là. Voilà, c'est ce samedi. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient ce week-end. Donc ce samedi à 16h à Cultura à la Beige, vous serez présent donc pour signer votre dernier livre, Explosif
tous
et Vieille
Ficelle. Et Toulouse Barbare aussi.
Et Toulouse Barbare également, puisque bon, deux dans la même année, hein, vous êtes productif.
Oui, c'est beaucoup. Oui. Ce sont les éditeurs qui décident.
Oui, mais c'est quand même vous écrivez.
Il faut les écrire, en effet.
Il faut les écrire. Et puis également, le lendemain, le dimanche 7, vous partez pour Gaillac, pour toute la journée, au Salon du Livre et du Vin.
Où je ne boirai pas, puisque je dois rentrer en voiture, hélas.
Ah, un petit peu quand même.
Peut-être.
Bon, et donc vous présenterez toujours ces deux mêmes livres, Toulouse Barbare et Explosif et Vieille Ficelle. Donc un week-end, vous voyez, assez chargé. Et puis dans les rencontres également d'octobre, eh bien demain, vendredi 5 octobre, à Cultura également. Il se passe beaucoup de choses à Cultura à la Beige. Hein. Ils accueillent énormément d'auteurs toulousains. Et bien il y aura Manu Kos, je vous l'avais déjà dit, pour Fair Play, son dernier livre. Puis je vous donnerai d'autres dates la semaine prochaine. Frédéric Martin, que je recevrai le 15 novembre, elle sera à Diagora, à la Beige. Donc, c'est pas tout à fait pareil, Cultura Diagora, mais enfin, ils accueillent aussi des auteurs. Les 6 et 7 octobre, donc, ce week-end également, pour son premier roman, mais donc son quatrième livre, qui s'intitule « Femmes vacantes ». Et puis, je termine avec quelque chose qui va intéresser Francis Pornon, puisqu'il a fait des études de philosophie. Le Café de philosophie fait sa rentrée à Revel, donc, comme comme chaque année. On avait terminé avec le thème « L'amour est-il éternel au mois de juin ?» Et là, pour le mois d'octobre, pour la reprise, c'est samedi 13 octobre de 17h à 19h. Donc, c'est au Café des Arcades qui se situe place de la Halle Centrale à Revel, dans la salle du premier étage. Le thème, donc, pour cette rentrée, je vais vous le dire de suite, c'est « Le cerveau humain n'appréhende-t-il le réel qu'en le modélisant ?» Alors, comme questionnement, il peut y avoir qu'est-ce qu'un modèle? À quoi sert-il? Est-il précis? À quelles conditions est-il efficace? Le langage est-il une pré-modélisation collective du réel? Point d'interrogation. Donc, si tous ces questionnements vous intéressent, n'hésitez pas. Donc, c'est samedi 13 octobre de 17h à 19h. L'entrée est libre et gratuite et les consommations sont au prix habituel. Je vous donne le numéro de téléphone du café des Arcades pour tout renseignement, c'est le 05 61 83 57 12. Et j'ai fini les petites infos avant de passer à Francis Pornon.
Page à page, Claire Ambil.
Merci Patrice qui fait la technique. J'ai été un peu courte, mais il est très réceptif. Merci Patrice. Alors, Francis Pornon. Beaucoup de choses à dire sur vous. Bon, vous résidez actuellement dans notre ville rose depuis déjà pas mal d'années. Mais vous n'avez pas été qu'à Toulouse.
Oh là là, non. Non,
vous avez bourlingué un peu partout.
Oui, j'ai pas fait le tour du monde, mais enfin, presque. Un petit peu le tour de la Méditerranée. Mais je suis revenu à Toulouse avec un fort désir d'y retourner.
Et d'y rester.
Et d'y rester, ben oui, d'y rester, je pense. Encore que, vous savez, ce retour à Toulouse a été l'occasion d'un petit désenchantement parce que j'avais l'impression de revenir dans ma ville, mais en fait, j'étais le seul à le savoir. Je l'ai quitté une quarantaine d'années, donc ça fait long.
Ça change une vie.
Voilà, quand on retrouve une vieille maîtresse au bout de 40 ans, elle ne vous reconnaît. Elle a changé. Et soi, on a changé aussi.
Tout à fait. Mais bon, vous aimez Toulouse.
Oui.
Vos livres, enfin, tout du moins les deux derniers, se passent à Toulouse, hein, tous les deux. Donc, c'est un hommage à la ville rose.
Voilà, ce sont à la fois des hommages, des coups de cœur, et puis un peu des coups de colère, des coups de rage aussi contre ce qui me déplaît, puisque, comme vous le savez, vous avez un petit peu vu mon trajet. Je ne suis indifférent à rien, mais surtout pas à ce qui me choque.
Tout à fait. Donc, vous avez fait des études de philosophie, comme je le disais tout à l'heure.
À Toulouse.
Oui. Et puis après, vous avez été donc enseignant en coopération en Algérie pendant 3 ans.
Voilà.
Et d'ailleurs, l'Algérie, vous y êtes retourné par la suite et vous y avez écrit des carnets de route, de voyage, on peut dire, qui sont publiés sous le nom de Algérie, publiés chez Parole d'Aube.
Tout à fait. J'en ai tiré également un roman aussi. Un roman plus expérimental, plus métaphorique, Algérie des sources, qui est paru lorsque j'étais de retour à Toulouse encore, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les éditeurs qui décident du moment de la parution des livres, et non pas les auteurs, hélas. Et ce livre était écrit bien des années avant sa parution.
Avant sa parution. Et vous avez été donc bien sûr en Algérie, mais vous avez été aussi dans d'autres contrées plus proches de nous, on va dire, en Auvergne par exemple, pour enseigner les techniques d'expression et de communication à l'École nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand. Mmh. Et alors là, vous avez fait un peu de théâtre, vous avez monté des spectacles, vous avez réalisations théâtrales et même des actions poétiques. Donc voilà, vous êtes
connaissez toute ma vie.
Ah bah oui, mais quand je reçois quelqu'un, j'aime bien tout savoir de lui, enfin presque tout, on va dire. Mais voilà, donc poète, théâtre, spectacle, vous êtes curieux de tout, Francis Pornon.
Curieux de tout, et puis aussi j'ai un peu la bougeotte, enfin j'ai un peu un côté, comment dirais-je, pas agitateur, mais très activiste, voilà, je cherchais le mot.
Mmh. Et, vous êtes un homme d'action.
Un peu, tout en étant aussi contemplatif, mais j'aime bien que ça débouche sur l'action, voilà.
D'abord, il faut contempler avant d'agir, quelque part ça va ensemble.
Ainsi, en poésie, j'ai fait des spectacles poétiques, des spectacles d'intervention, quelquefois, à propos de l'Irlande. J'ai été tellement choqué par la mort des députés que une dame, Comme quoi, voyez-vous, quand on est au pouvoir, parfois, être dame, c'est pas forcément plus doux. Donc, Margaret Thatcher a laissé mourir les jeunes Irlandais. Ça m'a tellement choqué que j'ai fait un poème là-dessus et que je le disais en public avec des amis.
Mmh. Oui, vous aimez bien lire en public vos. On y reviendra tout à l'heure pour AZF, justement. Voilà. Le poème.
Et pour AZF, voilà, j'ai fait un poème aussi qui a été dit en public au Bijou pour un anniversaire, je ne sais, le quatrième, je crois.
Le sixième, je crois.
Ou troisième.
Le troisième.
C'était cette fois-là.
La dernière. Et donc, vous avez résidé également à Vénissieux, dans la région lyonnaise, et vous avez écrit un poulpe là-bas, Saône interdite.
Oui.
Vous avez participé, voilà, à un poulpe. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait un poulpe dans leur vie. Ça doit être particulier, le poulpe.
Il y en a à peu près 300. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, moi. Parce que, bon, on dit que les poulpes, il y a à boire et à manger, évidemment.
Oui, mais bon.
Il y en a de mieux écrits que d'autres, certainement. À peu près 300 auteurs, je crois, qui en ont fait un. C'était la règle du jeu, hein.
Mm-hmm.
Un auteur ne pouvait en faire qu'un, et à condition qu'il ait l'assentiment du patron. Et moi, j'ai beaucoup aimé le faire sur Lyon, parce que là aussi, j'ai réglé quelques comptes.
Oui, justement, voilà, vous avez fait des arcs. Vous avez écrit aussi un roman, Un homme seul. Ça a été productif, Vénissieux.
Un petit peu. J'étais dans une résidence officieuse là-bas. Hein. J'étais reçu par le maire pour faire des ateliers d'écriture et avec du temps pour écrire. Même si j'étais obligé, je fais partie des auteurs qui doivent avoir une activité annexe pour vivre. Hein.
Mm-hmm. L'activité salariée.
C'est bon de le dire.
Et vous avez écrit notamment donc divers articles dans les journaux, notamment lors de la destruction des 10 tours des Minguettes.
C'est ça, oui.
Voilà.
Oui.
Et d'ailleurs, vous avez également écrit des poèmes qui ont été portés en lecture publique à ce sujet, également.
Tout à fait. Vous savez vraiment
tout. Oui. Et puis, vous avez écrit, ça m'a bien plu aussi, un livret, Le Trésor Magnifique, qui a été mis en musique par Sergio Ortega. Mmh. Et c'était donc pour le président Salvador Allende. C'est pas mal,
oui,
ça.
Oui, c'est-à-dire que moi, je l'ai écrit après. Hein. Lui était l'auteur de la mise en musique de El Pueblo Unido, vous savez, ce fameux mot d'ordre là, dont il avait fait une chanson quand il travaillait pour le président Salvador Allende. Effectivement, j'ai beaucoup aimé Sergio Ortega, avec qui j'ai travaillé plus tard. Donc, il est hélas décédé depuis 2 ou 3 ans. C'était un Chilien immigré à Paris.
Mais c'est bien d'avoir pu faire ce livret mis en musique, c'est voilà,
toujours pour
des causes nobles et
voilà, il y a quelques actes de ma vie comme ça qui ne m'ont pas forcément permis de vivre, je veux dire matériellement, financièrement,
mais
ça fait quand même une vie au bout du compte dont on est
assez riche,
voilà.
Riche, on est enrichi d'autres façons que par le matériel.
Tout à fait.
C'est aussi important finalement. Un voyage à La Réunion et hop, ça donne lieu à la publication d'un carnet de route dans l'humanité.
Mm-hmm.
Donc voilà, partout où vous passez, vous écrivez. C'est l'écriture, vous avez le stylo en poche tout le temps.
Oui, j'essaye.
Et puis vous animez bien sûr des ateliers d'écriture. L'un d'eux a été réalisé justement aux Minguettes, à Vénissieux, avec la publication d'une brochure « Demain saura ce que tu deviens ». Pour les collégiens, donc pour les collèges du département de Vénissieux.
Tout à fait.
Et également à Limoux aussi, donc ça c'est plus près de chez nous, avec des anciennes ouvrières de Miris, de l'entreprise Miris.
Tout à fait, oui. Alors là, si vous voulez, je voudrais faire un tout petit commentaire.
Oui.
Cet atelier a été l'occasion de faire d'écrire avec elles d'ailleurs. Ces anciennes ouvrières de chez Miris, ça s'est déroulé à peu près 2-3 ans après. J'essaye d'aller vite, mais
le temps nous rattrape.
Oui, voilà. Bon, ben j'en reste là alors.
Non, bon. Et à Toulouse, vous avez également fait avec les sinistrés d'AZF, bien sûr.
Voilà, j'ai aussi fait
également avec les collégiens du collège de la Rainerie.
Oui, c'était encore un autre atelier.
Encore
ça,
un
avec
autre
les collégiens.
Voilà. Et puis vous êtes intervenu également dans un colloque Regards croisés sur la guerre d'Algérie à Clermont-Ferrand, parce que bon, ça vous tient à cœur également. Et puis vous avez contribué également à l'année de l'Algérie par des articles, des lectures publiques et des animations. Donc on sent que voilà, l'Algérie, ça reste un souvenir et puis que vous n'avez pas envie que ça qu'on en parle plus. C'est comme la ZF. Vous avez envie d'en parler encore.
Mais oui. Je me considère quelque part comme un militant de la mémoire.
Parce que c'est
la maladie.
Transmettre le souvenir. Moi, je vois bien un auteur engagé qui transmet le souvenir.
Il y a de ça, oui. J'ai eu d'autres engagements dans ma vie. Donc je suis revenu parfois, mais celui de transmettre à la mémoire reste constant, oui.
Il ne faut pas oublier, donc vous êtes un passionné.
Mm-hmm.
Donc passionnant, forcément.
Merci.
Alors on en vient à Toulouse Barbare, aux éditions Priva, donc, qui est sorti en mars 2007. Donc c'est un roman, comme je reprends votre phrase, qui emprunte les chemins du réel.
Mm-hmm.
Donc c'est quand même inspiré de faits réels, hein.
Tout à fait.
Mais c'est un roman, il ne faut pas l'oublier non plus.
J'ai travaillé beaucoup à partir de La Dépêche, du dépouillement de La Dépêche sur quelques années.
Donc ça se passe à Toulouse, bien entendu. Et alors le personnage principal, on se dit, quand on le découvre, quand les auditeurs auront lu ce Toulouse Barbare aux éditions Priva, ils se diront peut-être comme moi, je me suis dit, ah, ce Aymeric Mercader, il a des airs de Francis Fornon.
Oui. Oui, il y a de ça, vous savez, quand on travaille sur un roman, il y a une part de fiction et puis une part de
personnel,
d'autobiographie. Alors quand même, pour marquer, l'ambiguïté, j'ai choisi ce personnage grand, ce que je ne suis pas. Comme ça, on sait aussi quand même qu'il y a une part qui n'est pas moi.
Voilà, qui n'est pas vous. Alors Aymeric Mercader, donc, c'est un ancien journaliste et il prend finalement le rôle un peu de détective, un peu rouletabille, pour aider Jojo, donc un personnage haut en couleur également, un peu un titi toulousain, sur une affaire de disparition de jeune fille dans une entreprise de téléphone rose, dans la ville rose.
Voilà.
Donc, si vous voulez, je lis vite fait la quatrième de couverture pour donner un peu le sens. Donc, Mercader, Bourlinguer dit le Qatar, revient de loin quand il arrive à Toulouse. La disparition de jeune fille le pousse à descendre dans les bas quartiers de la ville rose. Derrière le décor splendide et les rubiens propres, on découvre beauté, passion et barbarie. L'exploitation sexuelle moderne fait voir rouge à notre héros sur fond d'histoire sanglante, supplice de Callas, de Vanini et bien d'autres encore. Dans son enquête, une énigme va le conduire sur les traces d'une dame, guidé par un troubadour en quête d'amour loyal. Aventure rocambolesque et pleine de vérité, où le Qatar idéaliste battant est assisté du savoureux titi toulousain Jojo. Voilà, ça c'est la quatrième couverture de Toulouse Barbare. Donc, je vous invite vraiment à le lire rapidement. C'est vraiment, moi j'ai bien aimé. Alors en prélude au premier chapitre, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase de, alors je le dis à la française, en occitan, Raymond di Miraval, c'est ça? Alors c'est un troubadour, et donc la phrase, la petite phrase que j'ai bien aimée, qui est en prélude au premier chapitre, c'est « Mais la folie entre amants a valeur de raison et raison de folie ». Et d'ailleurs, vous avez fait des recherches à Carcassonne pour écrire des éléments sur sa vie, justement, pour ce livre, pour Toulouse Barbare.
Tout à fait.
Vous avez résidé à Carcassonne pour faire des recherches sur ce troubadour.
Qui a passé du temps à la cour du comte Raymond de Toulouse, notamment.
D'accord, oui, donc c'est ancien. Ce sont les troubadours, il y a des troubadours modernes, mais
maintenant.
Donc vous avez, voilà, c'est toujours avec des recherches. De toute façon, d'ailleurs, le livre explosif.
Il y a toujours une dimension. Il y a toujours une dimension dans le temps dans mes livres. Je n'aime pas les livres plats qui ne parlent que d'aujourd'hui. J'aime que ça renvoie toujours au passé parce que notre passé nous détermine quand même.
Tout à fait. Le présent est fait du passé.
Voilà.
Tout à fait.
Quand on voit des jeunes et jolies femmes comme vous aujourd'hui, on sait que sans la révolution féministe, sans 68, sans la bagarre des suffragettes au début du XXe siècle, tout ça ne serait pas possible.
Tout à fait. C'est vrai.
Voilà. Interviewé par vous, j'aurais simplement le café servi par vous-même. Ce que vous savez faire tout de même.
Ah, merci. Donc, alors, ce dernier livre, Explosif et vieille ficelle, donc édité chez Mare Nostrum, édition perpignanaise. Donc, il y a un article qui est paru la semaine dernière dans La Voix du Midi, qui est assez élogieux, quoi, sur ce roman.
Oui, ben c'est complet, bien fait.
Voilà,
tout à fait.
Voilà, avec une belle photo de vous. Mmh. Et puis donc, alors, ça inaugure en fait, ce Explosif et Vieille Ficelle, ça inaugure une série donc de la part de la maison d'édition Mare Nostrum, Polar Rose et Noir. Donc ça va tout à fait bien, parce que ça se passe là aussi dans la ville rose. Hein, et alors on peut dire, bon, ce roman, donc c'est un roman policier. Mais c'est pareil, c'est tiré aussi de faits, c'est un roman, mais c'est tiré vraiment de faits réels, puisque l'explosion d'AZF, elle a bien eu lieu, hein, malheureusement.
Ah oui.
Donc ça met en scène donc une sorte de contre-enquête fictive, hein, des années après la catastrophe AZF. Et pour finir, ça dévoile un fait historique caché jusqu'alors. Donc bon, on n'en dira pas plus, hein, parce qu'il faut que les gens, les auditeurs, aient envie, voilà, de le lire jusqu'au bout. Et donc, vous avez travaillé, voilà, avec beaucoup de, grâce à des entretiens, avec des sinistrés, enfin, avec des personnes
oui,
qui ont subi la catastrophe.
Aussi, avec
et avec des ex-employés, des ex-employés
oui,
d'AZF.
Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, je, étant natif, pour ainsi dire, de ce quartier-là, j'avais une sensibilité depuis longtemps, hein. Le fameux un jour ça va péter, on a toujours entendu dans les rues.
Ah, c'est pour ça que ça vous a marqué, la question que je me posais, c'est est-ce que ça vous a touché personnellement, quelqu'un de votre
mais
famille
bien sûr.
Oui,
mais
aussi.
Bien sûr.
Et
mais
en plus, sûr. Vous habitiez le quartier, enfin, oui, vous étiez vraiment
sûr.
De ce quartier.
Quand
donc,
on habitait le quartier, on a toujours été touché personnellement. Mmh. Le médecin me disait, je ne compte plus le nombre de couples qui se séparent, par exemple.
Ah,
après
oui
un traumatisme social. Vous savez, il y a les drames, comment dirais-je, induits, les divorces,
ouais,
l'alcoolisme, des suicides,
ouais,
voire
tout
voilà
à fait.
Mm-hmm. Donc ça, on le mesure pas, hein, on n'en parle jamais, en quelque sorte.
Et donc, et ce vous avez lu un poème en public lors du troisième anniversaire, apparemment, ce que j'ai marqué, de la catastrophe, Par-delà les orages.
Mm-hmm.
Voilà, pour souligner. Et donc, c'est un livre en hommage, bien sûr, à cette catastrophe, aussi, que vous avez écrit ce livre. Pour
oui
qu'on se rappelle, pour pas qu'on oublie trop facilement ou trop vite.
Voilà, et puis pour essayer de faire un petit peu le ménage aussi. Parce que j'ai horreur de, comment dirais-je, j'ai horreur du politiquement correct, mais c'est plus que le politiquement correct. C'est le idéalement correct, le fait que la pensée unique, la sensibilité unique, et qui souvent ne correspond pas, vous voyez, on parle de la Birmanie, oui d'accord, c'est un drame, la Birmanie, mais il y en a d'autres dont on ne parle pas. Mmh. Et puis il y a nos drames intimes à nous, vécus, passés, cachés. Alors ça m'agace toujours. C'est pour ça que j'ai écrit sur l'Algérie, c'est pour ça que j'écris aussi sur le passé plus lointain dans Toulouse Barbare. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire
sur AZF. Et est-ce qu'on on a le temps là, de lire un petit, pour nous donner un petit peu le ton? Alors déjà, il y a vous allez nous lire quelques lignes de la chanteuse Juliette.
Oui, en remerciement à la chanteuse Juliette, mm-hmm, qui a fait une chanson
sur AZF, justement, sur cette catastrophe.
Et qui m'a autorisé à citer un petit extrait des paroles
voilà,
de sa chanson.
Qui est en prélude au premier chapitre.
Voilà, parce que je ne saurais pas vous la chanter. Est-ce une bombe perdue, l'apocalypse maintenant? Est-ce un dieu vengeur et froid qui nous a fait un coup tordu? Un attentat fulgurant, une usine qui explose? Il s'est passé quelque chose. Et voilà, c'est le titre de la chanson.
Il s'est passé quelque chose. C'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Et alors, est-ce qu'on a le temps de lire un petit quelques
mais oui
lignes
Mais oui, je peux vous lire un petit morceau,
voilà,
un petit extrait qui se déroule dans un bar que j'ai appelé Le Joyau. En modifiant le...
Oui, il y a beaucoup de modifications d'ailleurs dans ce livre. Hein. L'affaire Presto,
oui,
ça m'a fait beaucoup sourire.
Oui, voilà, on a fait lire
on
le livre.
On n'en dira pas plus,
oui,
mais...
On a fait lire ce livre par une avocate pour essayer d'avoir le moins de risques possibles de poursuite.
L'affaire Presto.
Et nous avons donc modifié les noms.
Les auditeurs reconnaîtront.
Julio proposa un bistrot nommé Le Joyau. Un des coins les plus sympas. Et on avait des chances d'y rencontrer Aline, la responsable de CP21-2001. Je demandais qu'est-ce que c'était que ce truc cabalistique. Le comité des protestataires contre le 21 septembre 2001 avait tenu une permanence hebdomadaire dans le bistrot pour recevoir et aider les sinistrés. Cette organisation était très connue ici. D'ailleurs, dans le quartier, personne n'ignorait l'existence des associations de sinistrés. Apparemment, il y avait un monde post-AZF que l'autre monde ne connaissait pas. En attendant, le journaliste roulait avec une gueule d'enterrement. Je savais qu'il ne parlait pas du cadavre, mais ne pensait qu'à ça. Donc ils ont vu un cadavre auparavant. D'ailleurs, moi, je ne pouvais pas l'oublier non plus. Il fallait arrêter de tourner autour du pot. Que pensez-vous du cadavre ?
Moi ? Mais pas grand-chose, il y en a plusieurs chaque jour dans les dépêches d'agence. Vous savez ?
Vous n'avez pas de soupçons ?
Non, non, c'est l'affaire de la police.
Elisabeth Bache était bien votre collègue tout de même.
Ah ? Vous avez entendu ?
Ben, vous, alors vous avez bien un avis.
Mais que voulez-vous que je vous dise ?
Il grommela en haussant les épaules. Ici, tout le monde a un avis sur tout, mais qu'aucun ministère n'est dissipé, pas plus le mystère Presto que le mystère AZF ou n'importe quel autre. On a encore quelques minutes ?
Oui, je pense.
Je m'étonnais.
Allez-y.
AZF, quoi ? Qu'est-ce qu'il chantait ? L'explosion de l'usine, un ministère ? C'était pas encore réglé tout ça ?
Pas du tout, s'exclamait-il. Un tour de passe-passe à la soviétique ou même à l'américaine. Un truc explose, bousille toute une partie de la ville. On en fait un plat quelques jours dans les médias et puis on oublie. On nettoie et on camoufle bien vite et bien comme il faut. À Toulouse, on n'y pense plus que dans les quartiers sinistrés. Mais j'ai lu que les gens sont indemnisés et les bâtiments reconstruits. Peut-on vraiment indemniser et reconstruire après quelque chose comme ça ?
C'est sur cette question qu'on pourrait, voilà, qu'on arrête. C'est la question qu'on peut se poser. Hein. Voilà, on a reconstruit. Enfin, c'est encore en reconstruction. On a indemnisé les personnes, bien sûr, mais est-ce qu'on peut vraiment
Qu'est-ce qui est réglé ?
Qu'est-ce qui est réglé ?
Il y a d'autres AZF en puissance un peu partout en France, et peut-être même à Toulouse.
Voilà. Et donc, là, c'est la question qu'on peut se poser. Moi, j'aime bien, on va juste terminer sur la construction du livre, que moi, j'ai bien aimé, qui est assez original. Donc, bon, le personnage, bon, principal, entre guillemets, c'est un journaliste, Julio. Et puis, donc, cette jeune femme qui vient de Paris et qui vont, ensemble, avancer donc, dans cette enquête, entre guillemets, de disparition. Enfin, on n'en dit pas plus, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est cette construction. Il y a des chapitres où c'est Julio qui parle. Donc, des fois, il parle de la jeune demoiselle de Paris. Des fois, donc, c'est des chapitres, c'est elle qui parle en parlant du journaliste toulousain. Donc, c'est pas forcément toujours ils se disent pas forcément, ils pensent pas toujours forcément du bien l'un de l'autre. Mais bon.
Quoi qu'il y ait quelques rapprochements.
Voilà, tout à fait. Et puis, bon, après, il y a bien sûr l'action, les dialogues et tout. Donc, c'est une construction un peu originale, je trouve, qui met bien en valeur la teneur du polar.
Oui, c'est un choix littéraire que j'ai trouvé à un moment donné du travail. Je me suis dit, puisque tout le monde a son opinion à propos d'AZF, souvent contradictoire, pourquoi ne pas faire parler dans chaque chapitre une personne différente.
Tout à fait, pour que chaque opinion soit exprimée.
Voilà. Et quoique la narration se poursuit.
Ah oui, tout à fait. Écoutez, Francis Pornon, je suis vraiment ravie d'avoir partagé cette demi-heure avec
aussi.
Vous. Alors, le prochain, et c'est un personnage récurrent, donc ça sera le personnage récurrent de Toulouse Barbare, c'est-à-dire Émeric Mercader.
Voilà, explosif et vieille ficelle, c'est un peu un ovni dans mon œuvre.
Voilà, c'est entre parenthèses, voilà. Par rapport à AZF, par rapport à choses que colère que vous avez en vous également.
Exactement. Et je travaille actuellement à une suite de Toulouse Barbare, mais
avec,
bon, c'est en plein travail.
J'ai
pas encore d'éditeur, avis aux amateurs.
Ah, voilà. On lance un avis, vous trouverez, j'en suis sûre. Donc, personnage récurrent, Jojo, le titi toulousain, et puis Émeric
Mercader, dans les milieux de l'aéronautique, présent et passé.
C'est bien de chez nous aussi, c'est bien de notre ville rose également.
Exactement.
Eh bien, merci à vous, Francis. Vraiment, j'étais ravie de vous recevoir. Et puis, donc, on vous retrouve donc samedi 6 à 16h à Cultura, dimanche 7 à Gaillac, et puis d'autres dates que vous me communiquerez et que je communiquerai à nos auditeurs. Et n'hésitez pas, donc, Toulouse Barbare, édité chez Priva, en librairie, et puis Explosif et Vieille Ficelle, édité chez Mare Nostrum, en librairie également. Merci Francis.
Merci beaucoup.
Je vous retrouve la semaine prochaine avec Alain Monnier et puis son dernier roman intitulé Notre seconde vie. Merci et à d'ici.